heureux de pouvoir partager votre réflexion pour quelques moments. C'est vrai qu'à Thésée, nous parlons de rencontres. Quand nous parlons de rencontres de jeunes, ce sont des rencontres hebdomadaires, pratiquement tout au long de l'année, mais surtout à partir de février jusqu'au début novembre. Et puis, nous parlons aussi de rencontres, en tout cas européennes, des rencontres qui ont lieu après Noël. Je vous en dirai plus tout à l'heure. C'est un mot dans lequel nous nous retrouvons tout à fait. On pourrait peut-être parler de rencontre avec Dieu, rencontre avec soi-même, rencontre avec les autres. Je suis heureux de pouvoir vous en parler maintenant, parce que cette année 2015 est une année un peu particulière pour Thésée. C'est une année anniversaire, triple anniversaire, les 100 ans de la naissance de Frère Roger, que nous allons fêter le 10 mai à Thésée même. Et je crois que beaucoup de la région, ceux de la région de Saône-et-Loire, vont participer à la prière qui aura lieu à Thésée le 10 mai. Et puis tout au long de l'été, il y aura chaque semaine des rencontres, mais cette année il y aura 3 semaines un peu particulières. Du 5 au 12 juillet, il y aura une semaine pour les jeunes religieux, ceux qui sont entrés dans la vie religieuse il n'y a pas si longtemps, qui ont moins de 40, 45 ans, et ils participeront à une réflexion sur le renouvellement apporté par Frère Roger dans la réflexion sur la vie religieuse, vie monastique. Des responsables d'ordre religieux vont venir pour participer à cette réflexion également. Et puis la plus grande semaine de l'été sera sans doute celle du 9 au 16 août. Ce sera l'achèvement, le couronnement de 4 années de recherche sur le thème de solidarité, de nouvelle solidarité. Et nous attendons beaucoup de jeunes tout au long de l'été, mais en particulier cette semaine du 9 au 16 août. Et c'est le 16 août, c'est aussi l'anniversaire de la mort de Frère Roger. Ça fera 10 ans qu'il a été assassiné dans l'église à Thésée le 16 août 2005. Et puis, tout à la fin du mois d'août, du 29 août au 6 septembre, nous allons faire quelque chose d'un peu inhabituel à Thésée. Nous ne faisons normalement pas de colloque, mais il y aura un colloque théologique avec... pour des jeunes théologiens, comme il y a une semaine pour les jeunes religieux, il y aura une semaine pour les jeunes théologiens jusqu'à 40 ans, sur l'apport théologique de Frère Roger. Frère Roger n'est pas connu comme un théologien au sens académique, il n'écrivait pas des livres avec beaucoup de notes, mais ses intuitions ont profondément renouvelé une approche de l'écuménisme. Alors des théologiens connus dans le monde catholique, orthodoxe, protestant, vont se rassembler à Thésée du 29 août au 6 septembre avec des jeunes théologiens pour réfléchir à l'apport théologique de Frère Roger. Donc, une année anniversaire, je vous ai dit 100 ans de la naissance de Frère Roger, 75 ans, pas 70 ans, mais 75 ans de la communauté. Frère Roger a commencé en 40 et puis les 10 ans de sa mort. Beaucoup connaissent déjà l'histoire de Thésée, mais il faut peut-être rappeler que Frère Roger a commencé dans une période difficile. Il a 75 ans, donc c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Thésée n'a pas été créée dans une période de facilité. Et c'est important de savoir que tous ces mots qu'on pourrait employer trop facilement, le mot confiance, le mot réconciliation, le mot pardon, tous ces mots ont été forgés, pris naissance dans le cœur de Frère Roger à un moment des plus durs de l'histoire de l'Europe, un des moments les plus durs de l'histoire de l'Europe. En 1940, quand il est arrivé, à l'âge de 25 ans, il est arrivé dans la région de Thésée en ayant quitté la Suisse. Il cherchait une maison où il pourrait s'installer. Il voulait accueillir des réfugiés pendant la guerre. Thésée était située sur la ligne... Thésée était située sur la ligne de démarcation, à 15 km de la ligne de démarcation, séparant la France occupée et la France libre. Et pendant les 2 premières années de sa vie, de 40 à 42, il a pu accueillir des juifs, des personnes qui fuyaient. Et puis, jusqu'au jour où on l'a dénoncé, lui-même a dû fuir, il n'a pu revenir à Thésée qu'en 44. En 44, il voyait qu'il y avait des prisonniers allemands dans des camps très mal organisés, et il a demandé l'autorisation d'accueillir ces prisonniers allemands. Aujourd'hui, je crois, 1000 jeunes allemands viennent chaque semaine de l'été, mais le tout début de cet accueil se situe à la fin de la guerre en 1944. Le projet de Frère Roger dans ces années-là se limitait à la création d'une petite communauté. Il pensait 10, 15 hommes qui vivent un signe de réconciliation, d'unité, d'espérance. Vous savez que la communauté est écuménique, les frères catholiques, les frères protestants vivent comme une communauté. Frère Roger était lui-même fils d'un pasteur calviniste, et je crois qu'il avait peut-être entendu trop de sermons dans sa vie, trop de prédications. Il souhaitait que quelque chose de l'évangile soit communiqué autrement que par les mots, pas les mots uniquement en tout cas. Il accordait une grande importance aux mots et à l'écriture, puisqu'il avait hésité entre la vocation de frère et la vocation d'écrivain. Mais il savait que les mots ne suffisent pas et que nos contemporains cherchent des signes visibles. Comment est-ce qu'on peut vivre l'évangile? C'est ce qui l'attirait vers la communauté, vers le projet de communauté, qu'il souhaitait d'essence monastique. Il hésitait à employer ce mot monastique de façon trop facile, parce qu'il savait qu'il évoque souvent des caricatures de ce qu'est un moine, ce qu'est une communauté monastique. Pour lui, monastique, ça voulait dire le monos, un peu comme saint Augustin l'avait expliqué déjà au IVe siècle, ça voulait dire avoir un seul cœur, d'être d'un seul cœur, d'une seule âme, un peu comme cela est décrit dans les Actes des Apôtres. Les premiers chrétiens avaient un seul cœur, une seule âme. Augustin parle comme ça de la vie monastique. C'est pas être seul avec Dieu, le monos de la vie monastique. C'est pas que chacun vise à être complètement autonome en n'ayant besoin d'aucun contact humain. Certains imaginent que c'est ça la vie monastique, on est seul avec Dieu. Mais pour Augustin et pour Frère Roger, c'était réaliser un signe d'unité, devenir, tendre vers cela. Ce n'est jamais quelque chose d'achevé, c'est toujours incomplet, c'est toujours imparfait, mais de tendre vers cela, de tendre vers cette unité. Assez vite, dans l'histoire de Thésée, le lien a été fait avec Lyon, qui est à l'époque, Lyon était peut-être encore plus important que Paris sur le plan de la recherche intellectuelle, en théologie. Il y avait Fourvière qui était encore à Lyon, le père de Lubac qui était encore à Lyon, l'abbé Couturier, Paul Couturier, qui est considéré un peu comme le pionnier dans l'église catholique du mouvement écuménique, était également à Lyon. Et les liens ont été établis dès les années 40-41. Vous trouverez même dans un livre du père de Lubac, il parle de sa première rencontre avec frère Roger à l'abbaye des Dombes en 42. Lyon a beaucoup compté dans l'histoire de Thésée à cause du père Couturier, mais aussi à cause du lien que le père Couturier a fait avec l'archevêque de Lyon, le cardinal Gerlier. Et le cardinal Gerlier a fait le lien avec le pape, poussant les frères à les rencontrer. En 49 déjà, frère Roger n'avait que 34 ans. Mais il disait, il faut aller rencontrer le pape et expliquer votre projet de communauté et de vie écuménique. Frère Roger est allé à Pie XII en 1949, ça n'a pas donné de grands résultats. Mais il y a quand même eu une deuxième visite en 1950, au moment où le mouvement écuménique risquait d'être condamné. Et l'archevêque de Lyon croyait que les frères, frère Roger, notre frère qui l'accompagnait, pourraient peut-être rassurer le pape sur le mouvement écuménique. Il n'aurait pas besoin de le condamner. Et effectivement, il n'y a pas eu condamnation, il y a eu ce qu'on appelle un monitum, un avertissement sur les dangers possibles de l'écuménisme, mais le mouvement écuménique n'a pas été condamné. Ce lien, ces premières visites de 49-50 n'ont pas donné, je disais, de grands résultats, mais il y avait dans l'entourage de Pie XII un jeune évêque, responsable, avec d'autres responsabilités déjà au Vatican, c'était le jeune Montini, le futur Paul VI. Donc frère Roger l'a connu dès 49, et cela a beaucoup compté par la suite, le fait de s'être connu dans ces années-là, très tôt. Mais l'année marquante, et là où il y a vraiment eu rencontre, je dirais, pour Frère Roger, c'était avec Jean XXIII, quand Jean XXIII a été élu pape en 58, le même archevêque de Lyon, déjà âgé, le cardinal Chavier, déjà âgé, avait dit, si vous allez tout de suite à Rome le voir, au tout début de son pontificat, le pape se rappellera de vous. C'est important qu'il se rappelle de vous, qu'il vous voit au tout début. Frère Roger ne voyait pas vraiment l'importance d'aller au tout début, mais le cardinal avait insisté, et on trouve effectivement, je crois, dans les livres vaticans, que la toute première audience de Jean XXIII a été donnée pour un petit groupe de frères de Thésée, donc avec Frère Roger. Le cardinal Capovilla, qui a été le secrétaire de Jean XXIII, qui vit toujours, qui a 100 ans maintenant presque, nous le confirmait il y a quelques années, nous l'avons vu ensemble, un grand groupe de frères, dans le village natal de Jean XXIII, Sotto il Monte, il disait oui, c'est écrit le 8 novembre 58, première audience. Et ça a été une vraie rencontre entre deux hommes, entre Frère Roger et le pape Jean XXIII. Il y a une profonde compréhension dès le départ. Dès le départ. Frère Roger a souvent dit, je l'ai souvent entendu dire, l'homme qui a le plus marqué Thésée, c'est le pape Jean XXIII. Il y avait chez Jean XXIII une même vision de l'Église. L'Église comme communion, l'Église comme communauté d'amour. Certains ont peut-être vu dans le dernier livre du savant bénédictin Don Guilain Lafont, qui est moine de la pierre qui vire, un petit texte dans son dernier livre qui s'appelle L'Église en travail de réforme. Un texte qu'il a d'abord écrit en italien et qui a été pour ce livre publié en français. Un titre un peu plus provocateur en italien qu'en français, Jean XXIII, docteur de l'Église, point d'interrogation. Il se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas proclamer Jean XXIII docteur de l'Église, comme on a proclamé Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, cette jeune femme de 24 ans, qui a su redonner la primauté dans l'Église à l'amour. Qui a su, dans beaucoup de vies, chasser la peur de Dieu, et redonner la primauté à l'amour. Et Jean XXIII, d'une certaine façon, a fait quelque chose d'analogue pour l'ecclésiologie, pour la façon de comprendre l'Église. Il a remis l'amour au centre. Et quand il a rencontré Frère Roger pour la première fois, il applaudissait quand Frère Roger expliquait son projet. Il a demandé que les frères viennent souvent le voir, et lorsqu'il a eu l'intuition du concile Vatican II, il a demandé que les frères soient à Rome comme observateurs. Ils étaient les invités via le conseil pontifical pour l'unité, les invités. Frère Roger a vécu avec quelques frères tout le concile, quatre sessions du concile de 62 à 65 à Rome, et c'est là qu'il a connu le tout jeune Wojtula, le tout jeune archevêque, évêque de Cracovie, futur Jean-Paul II. C'est là qu'il a connu de nombreux évêques d'Amérique latine, d'Afrique. C'est vraiment une date très importante dans l'histoire de Frère Roger, notamment la dernière audience avec Jean XXIII en 63. Jean XXIII est mort le 3 juin 63, et les frères avaient demandé une dernière audience, l'occasion pour le pape de donner comme un testament spirituel pour Thésée. Et cette audience a eu lieu, elle a duré très longtemps, entre autres parce que, semble-t-il, l'horloge s'est arrêtée sur le bureau du pape. Personne ne savait que le temps passait. Ça a été une audience très longue, et Frère Roger avait posé la question à Jean XXIII, quelle est la place de Thésée dans l'Église? Et Jean XXIII avait répondu, l'Église, c'est des cercles toujours plus grands. Et vous êtes dans un de ces cercles. Il n'y a pas à se préoccuper. C'était une parole très forte qui est restée dans le cœur de Frère Roger comme la référence dans les périodes difficiles. Il y en a eu aussi des périodes difficiles. Dans les périodes difficiles, cette parole de Jean XXIII est restée. Nous avons posé la question à Mgr Capovilla, qui a été secrétaire, comme je vous le disais, de Jean XXIII, pourquoi est-ce qu'il y avait cette confiance, cette relation si profonde entre Frère Roger et Jean XXIII. Et Il avait répondu assez longuement, je ne vais pas vous dire toute sa réponse, mais Jean Neutra avait lui-même dit à Frère Roger, qui lui posait aussi la question, pourquoi est-ce que vous accueillez toujours si bien, si chaleureusement? Et Jean Neutra avait répondu, mais vous avez le regard d'un enfant. Et Jean Neutra avait aussi voulu garder quelque chose de l'enfance en lui. Et Capoville a cité Bernanos qui disait, le saint est celui qui renonce jamais à son enfance, à l'esprit d'enfance. Le saint est celui qui ne renonce jamais à l'esprit d'enfance. Et il y avait cette vision de l'Église, il y avait un esprit d'enfance qu'on a parfois pris pour de la naïveté. Beaucoup pensent que Jean XXIII était un homme bon, mais un peu naïf. Alors qu'il y avait, Frère Roger en était persuadé, un choix pour la bienveillance, un choix pour la miséricorde. C'était un choix très conscient. Il y avait une vision de l'Église qui avait trop condamné. Frère Jean Neutre le disait explicitement en annonçant le concile, condamné, on a assez fait. Il faut maintenant passer à autre chose. Je vous raconte un tout petit peu ces étapes historiques pour que vous puissiez un peu situer aussi le cheminement œcuménique de Frère Roger. Ce qu'il avait compris de Jean XXIII et à partir du concile, il a mis du temps à l'exprimer. Peut-être qu'il l'a fait le mieux lors de la première rencontre européenne de Rome en 1980, quand il y avait 30 000 jeunes à la basilique Saint-Pierre. Jean-Paul II était présent, il fallait dire quelques mots. Et Frère Roger a dit, j'ai trouvé mon identité en réconciliant en moi mes origines, ce qui voulait dire mes origines protestantes, hein, avec la foi de l'Église catholique, sans rupture de communion avec quiconque. J'ai trouvé mon identité en réconciliant en moi, réconciliation intérieure. Les origines avec la foi de l'Église catholique, sans rupture. Je crois que cette parole a commencé à être comprise après la mort de Frère Roger. Je crois que pendant très longtemps, beaucoup entendaient cette parole, mais ne savaient pas ce qu'il fallait mettre derrière. Et c'est après sa mort qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait là un chemin de réconciliation tout à fait particulier. Je voulais vous dire quelques mots de comment les jeunes sont arrivés à Thésée. Le projet de départ, c'était une communauté de frères, petite communauté, signe d'unité, signe de réconciliation. Et la venue des jeunes n'était pas dans le projet de Frère Roger. Et ce n'est qu'avec une certaine hésitation qu'il a accepté d'accueillir des jeunes. Déjà dans les années 58, dans le village voisin, à 4 km, à une distance un peu prudente, il a accepté qu'il y ait une maison d'accueil. À Cormatin, ceux qui connaissent la région, à 4 km. Ils n'étaient pas très accueillants d'envoyer des gens à 4 km. Mais il disait, les jeunes vont déranger. Ils vont déranger le signe de communauté, ils vont troubler la paix des frères. Et puis, ils ne continueront pas à venir très longtemps. Ça durera un an ou deux, et ça s'arrêtera. Et il a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait moyen de rester une communauté d'essence monastique, enraciné dans la prière, besoin de silence, besoin de forte vie commune, et en même temps, communauté qui peut et qui sait accueillir. Il a mis du temps à comprendre, et je crois que c'est autour de 60, 61, qu'il accepte qu'une église plus grande soit construite à Thésée. C'est l'église que vous voyez quand vous venez sur la colline, qui porte le nom Église de la Réconciliation. Et là encore, c'est intéressant de savoir que Frère Roger n'a pas tout de suite compris le sens de cette église. Il l'a trouvée beaucoup trop grande. Le frère architecte qui avait fait les plans, lui avait soumis les plans, mais il n'avait pas bien lu, pas bien compris. Et quand il a vu cette église, il a dit, nous n'aurons jamais besoin d'une église aussi grande. C'est une erreur que je dois assumer, parce que c'est moi qui ai lu et approuvé le projet. L'église de la réconciliation a été ouverte en 62, le 6 août 62. Et c'était un jour, on peut dire, assez triste pour Frère Roger. D'une part parce qu'il trouvait que cette église était démesurée, pas besoin d'une église aussi grande. Et puis Frère Roger n'aimait pas beaucoup les discours. Il fallait écouter beaucoup de discours. Ce jour-là, il y avait des représentants de beaucoup de confessions religieuses. Et lui-même devait prononcer un discours. ce qu'il n'aimait pas faire du tout. Et il a vécu cette journée avec certaine tristesse, et jusqu'à la fin de la prière. Et en sortant de l'église, de la réconciliation, après cette première prière d'ouverture, il y avait au-dessus de l'église un arc-en-ciel. Et pour la première fois, il s'est dit, peut-être que je me trompe. Peut-être que cette église est autre chose. Il ne sera pas un poids. Peut-être que cette église, il y a du bout de béton, frère, je n'aimais pas le béton, ne sera peut-être pas un poids. Elle sera peut-être comme une arche qui nous transporte, qui nous transportera ailleurs dans le monde. 10 ans plus tard, l'église est trop petite, beaucoup trop petite. Il y avait plus d'inscriptions à Pâques 72 que de places dans l'église, et il fallait très vite faire un choix, décider, est-ce qu'on écrit aux jeunes, ne venez pas, il n'y a pas de place, ou est-ce qu'il y a moyen de trouver en 3 semaines 3 000 à 4 000 places de plus dans notre église. Et la décision a été unanime, je crois, chez les frères, d'abattre la façade de l'église, le mur ouest, qui était tout en vitraux. Les frères avaient travaillé des centaines d'heures pour faire de très beaux vitraux, d'abattre le mur et d'accrocher une tente de cirque à l'église. Et pendant des années, c'est ainsi que nous avons vécu Pâques. Certains se souviennent peut-être de cette église. Quand Jean-Paul II est venu à Thésée aussi, il y avait encore ce chapiteau pour l'accueillir. Ça a duré jusqu'à la chute du mur de Berlin, quand nous avons compris que les jeunes allaient être très nombreux, pas seulement à Pâques. Et donc, nous avons ajouté ces constructions, ces narthex successifs à l'église, qui sont maintenant plus grands que l'église d'origine. Tous les agrandissements dépassent de loin ce que l'église d'origine avait comme capacité. Je vous ai dit ça pour que vous compreniez que Frère Roger n'avait pas un projet très clair. Le seul projet clair, c'était une vie de communauté, une vie de prière. Le reste s'est greffé autour de cela. Et il fallait accueillir. En 66, les frères plus âgés, moi je n'étais pas là encore, mais en 66, les frères se souviennent que Frère Roger leur disait, il y a des mutations, des changements très importants, qui vont être de loin plus importants que les changements que l'on connaît toujours quand les générations se succèdent, mais il y aura quelque chose de plus important. Et il faudrait que les frères s'exercent, essayent d'écouter, de comprendre. Écouter, ça a été un mot très important, et c'est un mot très important dans la vie de Thésée. Écouter, ne pas tout de suite donner des conseils, ne pas tout de suite donner un avis, mais écouter. Et je crois que s'il y a une confiance qui a grandi entre Thésée et plusieurs générations de jeunes, c'est à cause de cette écoute, où des jeunes ont senti qu'ils étaient accueillis véritablement pour ce qu'ils sont, et pas pour les mettre dans un projet qui serait celui de Thésée ou d'une église. C'était des années un peu difficiles, je crois que dans la salle, il y a sans doute des personnes qui ont fréquenté Thésée dans ces années-là, 70, début des années 70, des années où Frère Roger a pris beaucoup de risques, quitte à être mal compris, quitte à ce que Thésée soit mal compris dans l'opinion, même parmi des hommes d'église. Mais il disait, la maturité va venir. La maturité n'est pas encore là, chez les jeunes que nous accueillons, mais elle viendra. Elle viendra. Et on saura comment faire peu à peu. Et qu'il a traversé ces années 60, fin des années 60, jusque vers les années 76, 17, des années assez difficiles, en persévérant dans l'accueil, dans la prière, dans l'écoute des jeunes, en acceptant, comme je le disais parfois, de ne pas être toujours compris. Frère Roger savait que une vocation à la réconciliation implique aussi de ne pas toujours être compris. On est mieux compris si on prend parti. Si on prend parti pour un côté, une confession, mais de vouloir vivre une vocation de réconciliation, c'est naturellement s'exposer à ne pas être compris. Quand les jeunes ont commencé à être très nombreux et à venir très régulièrement, il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Pas seulement dans un séjour à Thésée, mais qu'est-ce qu'on va leur proposer après Thésée? Et la décision a été prise très vite de ne pas créer un mouvement avec des membres de Thésée. Aujourd'hui, il y a une centaine de frères de Thésée, catholiques, protestants ensemble, mais il y a environ 100 000 jeunes qui viennent chaque année pour vivre une semaine à Thésée. Le but n'est pas du tout de créer un mouvement qui porterait le nom de Thésée, mais la décision a été prise que Thésée serait un lieu où des jeunes viendraient pour des séjours assez brefs, une semaine, peut-être deux, et un espace où chercher, à partir de la prière, de l'écriture, de l'échange, de la rencontre, des réponses qui ne seraient pas des réponses données toutes faites par des frères de Thésée. Un espace où chercher. La maturité, je vous disais, est venue, moi je me souviens autour des années 77, frère, je disais, maintenant on pourrait proposer dans les rencontres qu'il y ait pas seulement des échanges entre jeunes, mais on pourrait proposer par exemple au début de chaque journée une introduction biblique. Une introduction à partir de quelques textes bibliques. Et nous le faisons depuis chaque matin, pratiquement. Les jeunes arrivent le dimanche, dès le lundi matin, jusqu'au samedi matin compris, repartent le lendemain. Nous faisons une sorte d'introduction biblique. 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, avec toutes les langues. Donc c'est un défi, vous imaginez, il y a 20, 30, 40 langues qui sont représentées. Parfois il faut passer par des traducteurs, parfois les frères eux-mêmes, puisque les frères sont de 25-30 pays, nous parvenons aussi à traduire, mais souvent il faut de l'aide. Et on pourrait parler aussi de rencontre là aussi, parce que la rencontre avec Dieu, c'est pas seulement dans la prière, mais c'est aussi la rencontre avec la parole de Dieu. Et pour beaucoup de jeunes, il y a une sorte de, et pas seulement de jeunes, et moins jeunes aussi, une sorte de reconnaissance de pouvoir comprendre quelque chose de la parole. Et c'est un défi très grand chaque semaine d'essayer de rendre accessible quelque chose de la Bible à une génération, à des générations qui ont très peu de connaissances bibliques. Il ne faut pas penser que les mots que nous employons sont connus. Même les choses les plus élémentaires ne sont pas connues. Les mots que nous pensons être des mots de base du christianisme sont des mots que beaucoup ne connaissent plus aujourd'hui. Donc il y a le défi de parler pour un public qui connaît peu le vocabulaire chrétien et en même temps de ne pas être banal, de ne pas dire des choses qui vont ennuyer ceux qui ont quelques connaissances. C'est un défi chaque semaine. La prière, elle, beaucoup connaissent Thésée aujourd'hui à cause de la prière avec les chants. Mais cela n'est venu qu'à cause des rencontres de jeunes. Ce n'était pas une recherche gratuite pour faire de la musique, c'était le besoin de chercher comment prier avec une foule multilingue, très variée, qui ne peut pas, dans une semaine, apprendre comment chanter des psaumes en français, chanter des hymnes. Donc, la création de ce qu'on appelle les chants de Thésée, ces chants très courts, toute cette recherche-là, elle est née de la présence de jeunes, du défi de prier avec eux. Frère Roger n'était pas très heureux des années 70 à 14 pour la prière. Il n'était pas très heureux du fait que tant de personnes étaient spectateurs. Même si on donnait des traductions en beaucoup de langues, des psaumes, des hymnes, il n'y avait pas participation réellement. Et c'est les chants qui ont permis... les chants très courts, ce qu'on appelle les chants de Thésée aujourd'hui, qui ont permis à ceux qui étaient présents, ceux qui sont présents maintenant, de participer réellement à la prière. Frère G croyait beaucoup à la beauté de la voix humaine, que la beauté est un chemin vers Dieu pour beaucoup, et surtout dans une période où la peur de Dieu est très grande. C'est un fait, je pense, dans beaucoup de nos cultures occidentales. Il y a une peur de ce que signifie s'ouvrir à la foi. Est-ce que je vais perdre ma liberté? Est-ce que je vais avoir ma référence ailleurs que dans ma propre réflexion? Et la beauté, elle tend à désarmer. Elle nous désarme. Elle nous fait perdre nos peurs. La beauté du chant... Je crois que beaucoup de jeunes se sont ouvert à cette rencontre avec Dieu dans la prière à cause de la beauté du chant. Et avec le chant et la lecture biblique, il y a le silence. Et donc, trois fois par jour, après le chant qui suit la lecture, il y a un long moment de silence, 7-8 minutes. Vous imaginez ce que ça veut dire pour des jeunes d'aujourd'hui, hein? On fait silence pendant une heure. 7 minutes, ça, c'est comme une heure pour eux, au début. Et les mêmes qui ont très peur du silence en début de semaine, ce sont souvent les mêmes qui disent c'est la partie que j'ai le plus aimée de ma semaine. C'est les temps de silence, qui ne sont pas des temps de silence comme on peut les faire quand on est seul dans sa chambre, mais un temps de silence qui suit le chant, qui suit la lecture d'une parole. Et là, je pense qu'il y a rencontre aussi dans le silence. Je disais rencontre avec soi-même, c'est pas seulement cela, bien sûr, c'est rencontre avec Dieu, mais il y a aussi une rencontre avec une profondeur humaine, une partie de soi qu'on ignorait, qu'on ne savait pas. Et nous, les frères, nous rions un peu quand les jeunes disent « À Thésée, je me sens chez moi ». Et on se dit, mais quand même, hein, pas de confort à Thésée, dans des dortoirs, des tentes, des partages d'un dortoir avec d'autres, de la nourriture, c'est pas quand même la maison. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut dire, ici je me sens chez moi, hein? Et il me semble que votre thème, le thème de la rencontre, il s'agit quand même de cela, c'est une rencontre avec le plus vrai en moi. J'étais frappé par les évêques allemands, les évêques catholiques allemands ont traduit dans un catéchisme pour adultes dans les années 80, qui a été publié en français aussi. Ils ont traduit le mot cœur, que l'on trouve dans la Bible très fréquemment, ils ont traduit le mot cœur par le vrai moi. Le vrai moi. Et je trouve ça très beau, parce que nous, en français, on est porté à penser cœur, sentiment, non ? La Bible parle de cœur lorsqu'il s'agit du lieu où l'on doit décider quelque chose pour sa vie. C'est dans son cœur qu'un être s'oriente. C'est à partir du cœur humain que se prend une orientation pour la vie. Le vrai moi. Pas le moi lié au succès, aux résultats scolaires, au salaire, à l'apparence, mais le vrai moi. Et je crois que dans la prière, pour beaucoup de jeunes, il y a le moi qui se découvre, c'est le moi qui est. C'est l'enfant de Dieu. Celui qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, qui est fils, fille de Dieu. Et beaucoup de jeunes font cette découverte, je crois, dans la prière, dans le silence, dans l'écoute de la parole. Et je ne vois pas d'autre explication à cette phrase « Je me sens chez moi ici ». Je crois que ça n'a de sens que s'il y a eu une rencontre vraiment avec le plus vrai en eux. Rencontre avec les autres, bien sûr, cela, à Thésée est un lieu d'échange. Vous voyez, quand vous passez sur la colline de Thésée, vous voyez partout des petits groupes d'échange. Après l'introduction biblique, nous donnons des questions, les jeunes se répartissent en groupes, ils échangent entre eux. On est assez étonné chaque semaine de la diversité de jeunes. Parce qu'il y a, dans ces petits groupes-là, beaucoup diront « mais moi je suis non-croyant ». Comment c'est possible? Ils vont à la prière trois fois par jour, ils vont à l'introduction biblique, hein? Mais non-croyant, ça ne veut pas dire je ne crois pas en Dieu. Ça veut dire on m'a jamais donné l'occasion de réfléchir, de prendre position. On le voit notamment ces dernières années avec des écoles venant d'Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il n'y a presque plus de jeunes dans les grandes églises historiques. Alors il y a eu l'idée que des jeunes pourraient venir avec des écoles, pas comme un projet d'école imposé, que chacun choisisse de venir passer une semaine. Mais quand même quelque chose que l'école propose. Alors nous accueillons quelques centaines de jeunes d'Angleterre chaque année dans ce cadre-là. Et les réactions sont très intéressantes. Vous pouvez d'ailleurs en voir sur le site en vidéo. Il y a quelques vidéos qui ont été faites sur ça. Et un jeune disait, mais avant je pensais que j'étais athée. Maintenant je pense que je dois réfléchir à ce que je crois moi-même. Hein? Donc, c'était plutôt athée par conformisme, mais pas par choix. Et donc c'est... Il y a cette diversité chaque semaine de jeunes qui croient en Dieu, de jeunes qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont ouverts à la possibilité de découvrir quelque chose dans la foi. Et nous considérons que c'est une chance. Nous considérons que c'est une chance d'avoir cette diversité de jeunes chaque semaine. Donc, une grande semaine, c'est 3-4 000 jeunes chaque semaine qui sont dans ce cas-là. Je voulais dire encore un mot des rencontres en dehors de Thésée. J'ai parlé des rencontres européennes. Après Noël, il y a deux mois et demi, nous étions à Prague pour la 37e rencontre européenne. Donc ça fait 36 ans que nous faisons ces rencontres qui durent 4-5 jours. Certains ont peut-être des souvenirs de la rencontre de Paris en 2002, la dernière. Mais chaque année après Noël, depuis 36 ans, il y a ces rencontres qui rassemblent des dizaines de milliers de jeunes. Et là, il y a de nouveaux défis peut-être. Il y a des défis déjà de les loger tous en dehors de Thésée. Il faut trouver 30-40 000 logements chaque année. À Prague, ce n'était pas facile dans un pays où il y a si peu de chrétiens dans les églises, très très peu de chrétiens. Mais nous avons eu l'aide aussi d'écoles, de gymnases. Mais nous avons quand même réussi à trouver beaucoup de logements chez l'habitant, ce qui n'était pas rien. Dans la préparation de ces rencontres européennes, nous voyons aussi les préjugés qu'il y a. En 91, on m'avait demandé de préparer la rencontre de Budapest. Et j'étais en gris, puis nous sommes toujours heureux lorsque, à cause du problème du logement, lorsque des personnes se présentent avec une fiche d'accueil en disant « Je suis prêt à accueillir quelques personnes, voilà mon adresse. » Et je me souviens de cette famille qui était venue en disant « Nous voulons accueillir 4 personnes. » Et puis ils ont mis au bas de leur fiche, sans qu'on l'ait remarqué tout de suite, « S'il vous plaît, pas de Roumains. » Pas de Roumains. Et vous connaissez un peu l'histoire de la Hongrie, comment après la Première Guerre mondiale, ils ont perdu toute une partie de leur territoire à la Roumanie. Et puis, depuis ce moment-là, il y a peu d'estime, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la Hongrie et la Roumanie, entre les Roumains et les Hongrois. Et sans le faire exprès, sans du tout, pas du tout intentionnellement, ce sont 4 Roumains que nous avons envoyés à cette famille. Et nous n'avons pas su ce qui s'était passé. Jusqu'à 2001, quand nous avons eu une deuxième rencontre à Budapest, c'est cette même famille qui est venue vers nous. Elle avait rempli la même fiche d'inscription. Nous voulons accueillir 4 personnes. Voilà notre adresse. Et ils avaient mis au bas de leur fiche, « S'il vous plaît, envoyez-nous des Roumains. Hein? S'il vous plaît. » Et donc, il y a rencontre aussi dans ce sens-là, non? Rencontre vraiment au-delà des préjugés. C'est produit très souvent dans les rencontres européennes entre Croates, Serbes, Bosniaques, Russes, Polonais, maintenant Ukrainiens, Polonais, même Ukrainiens, Russes, ils étaient nombreux à la rencontre de Prague aussi. Heureux d'être ensemble, en fait. Hein? Heureux d'être ensemble. Et donc, là aussi je pense qu'il y a rencontre et un peu à cause de la simplicité, nous sommes très attachés à la simplicité à Thésée. Un archevêque de Canterbury qui avait passé une semaine à Thésée, qui a écrit un livre suite à son séjour à Thésée, avait dit au début, je me suis dit pourquoi il y a des bouts de toit ici et là, pourquoi est-ce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas finis, pourquoi est-ce que tant de gens sont dehors. Et ensuite, j'ai compris, tout est fait pour la rencontre. Ce n'est rien pour impressionner, aucune architecture qui s'impose, qui soit imposante, mais tout est fait pour la rencontre humaine, pour que les personnes puissent se rencontrer, échanger. Et la simplicité, un frère qui a beaucoup voyagé dans les pays du Balkan pendant la guerre des Balkans, disait, si nous avions organisé un débat entre Croates et Serbes et Bosniaques, on peut être à peu près sûr qu'ils seraient repartis encore plus divisés qu'avant. Mais c'est le fait de partager une même expérience, prière, rencontre, simplicité dans le logement, dans la nourriture, manger dehors, parfois dans les rencontres européennes, on mange pas toujours à l'intérieur des bâtiments, c'est parfois en plein hiver, on est dehors. le fait de partager ces mêmes conditions de vie dans la simplicité fait qu'il y a rencontre. Et Frère Roger croyait beaucoup à la valeur de la simplicité, un peu à tous les niveaux, pas seulement au niveau des bâtiments et de l'architecture, mais que les moyens forts font peur et n'aident pas finalement à comprendre l'Église. La simplicité aide à comprendre. Et que la simplicité n'est pas pour les débutants seulement. Et c'est vrai aussi pour la prière. La simplicité n'est pas pour les débutants. Ensuite, on passe à quelque chose de plus compliqué. Non. La simplicité, c'est quelque chose qu'on doit viser. Plus on avance dans la vie de foi, plus on doit viser une grande simplicité. Donc ces rencontres à l'extérieur, il fallait trouver un terme, une expression qui donne le sens de leur unité, parce qu'elles sont en Europe, donc c'est une rencontre européenne, mais elles sont aussi au-delà de l'Europe, il y en a en Afrique, en Asie, en Amérique. Et nous avons finalement pris l'expression pèlerinage de confiance à travers la terre. Et Frère Roger aimait bien ce mot pèlerinage, puisqu'on ne pensait pas à mouvement, des pèlerins, tous, on se donne rendez-vous dans une ville, dans un lieu, mais aussi il y a le défi quotidien d'être pèlerin de confiance, de réconciliation. Et puis le mot confiance, qui est le mot que Frère Roger peut-être a le plus aimé, plus prononcé dans les derniers 25 années de sa vie. Le mot confiance était un mot qu'il souhaitait communiquer, la réalité de la confiance. Je crois qu'il voulait dire espérance avec ce mot confiance, mais il n'osait pas prononcer le mot espérance parce qu'il savait que pour beaucoup de nos contemporains, le mot espérance fait penser à des vœux pieux, ce qu'on souhaiterait, mais n'a pas grand lien avec la réalité. Alors que le mot confiance permet de se dire c'est pour aujourd'hui, il faut commencer maintenant. J'ai confiance qu'il est possible de changer quelque chose dans le monde, dans la société, aujourd'hui. Donc je me mets en route. J'avais demandé une fois à Frère Roger, qu'est-ce que tu comprends par confiance? Qu'est-ce que tu entends par confiance? Il disait confiance du cœur. Il avait fait cette réponse étonnante, il avait dit, la confiance vous enlève votre alibi. La confiance vous enlève votre prétexte pour ne rien faire. Et la confiance, c'est pas seulement ce qui donne de dormir un peu la nuit quand on se couche, mais c'est aussi ce qui nous met en route le matin, ce qui fait sortir, aller vers, entreprendre. Je vais rester ici quelques minutes peut-être pour l'échange, puisque le temps passe. Peut-être à partir de vos questions, d'autres aspects de thèse vont sortir.
S'il y a quelques... Est-ce que ça marche? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des... Merci d'abord, Émile, frère Émile. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des demandes de précision par rapport à ce que frère Émile vient de nous partager? Oui.
J'aurais voulu savoir quel est le déclic qui a fait que les premiers jeunes sont venus. Comment ça a été connu à 4 km de Thésée?
Personne ne le sait, je pense, exactement. Simplement, Frère Roger avait toujours gardé un lien avec des responsables de jeunes, en Suisse, en France un peu aussi. Lui-même, je pense, à cause de la maladie qu'il avait eue comme adolescent, il avait une tuberculose. À l'époque, vous savez ce que c'était la tuberculose en 1920, 25, 30, on mourait de tuberculose. Et on pensait qu'il allait mourir. Donc on lui avait laissé un peu la paix. Son père d'abord l'avait poursuivi pour qu'il fasse des études, même alité, même malade. Puis ensuite, on a vu que sa condition ne s'améliorait pas, qu'il risquait de ne pas survivre. On lui avait laissé un peu la paix. Il avait beaucoup lu, médité aussi, comme adolescent à l'âge de 15-16 ans. Et puis, quand il a repris les études, il a guéri, il y avait comme un bonheur d'être avec les autres. Un bonheur d'être avec d'autres jeunes. Il avait été privé de la compagnie Et je me demande parfois si ce bonheur de créer avec d'autres, qu'il a retrouvé peut-être à l'âge de 17-18 ans, ne l'a pas poussé, orienté un peu vers la communauté aussi. Mais il a été le président des étudiants chrétiens de Suisse, donc il y avait ce lien avec la jeunesse dans les années 37, 38, 39, et jusqu'à sa venue à Thésée. Donc je pense que certains liens avec des aumôniers étaient restés, et ce sont des aumôniers qui ont commencé à venir à Thésée. Et sans doute, le premier livre de Frère Roger a eu aussi un certain impact. Le premier livre de 58 s'appelait « Vivre l'aujourd'hui de Dieu ». Ce qui est devenu un peu un slogan presque dans l'Église aujourd'hui, mais c'était le titre qu'il avait donné à son premier ouvrage. On retrouve des thèmes qui sont dans Vatican II, la présence de l'Église au monde. Frère Roger parlait déjà un peu dans ce sens-là, et ce livre avait eu beaucoup d'écho et sans doute attiré quelques personnes. On pourrait ajouter peut-être aussi la musique. Déjà à l'époque, même s'il n'y avait pas les chants de Thésée, il y avait déjà des disques. Il y a eu un grand prix du disque, je crois, en 56 pour... Père Gilino, vous connaissez le père Joseph Gilino, le jésuite qui était un très proche ami de la communauté, avait voulu que sa première traduction des psaumes, Père Gilino avait traduit les psaumes pour la Bible de Jérusalem en 46, si je ne me trompe pas, il avait voulu que les frères enregistrent à Thésée sa traduction et ses premières compositions. Et donc, cette musique-là s'était déjà un peu répandue, je pense, avait aussi attiré le monde.
Une autre question, ça sera la dernière, la deuxième et la dernière.
Vous parlez beaucoup de l'accueil des jeunes, mais ceux qui sont plus âgés, vous accueillez?
Oui, alors il y a des rencontres de jeunes pratiquement tout au long de l'année, et les adultes de plus de 30, plus de 35 ans jusqu'à 90 ans, là, c'est pratiquement chaque semaine de Pâques jusqu'au mois d'octobre. Chaque semaine. Donc, s'il y a 3-4 000 jeunes de 17 à 35 ans à Thésée, il y a chaque semaine 300-400 adultes de plus de 35 jusqu'à, comme disait 90, pratiquement chaque semaine. Donc là aussi, il y a des introductions bibliques pour les adultes. Autrefois, quand je faisais ces introductions, je me disais, il faut faire un peu autrement pour les adultes. Et c'est partiellement vrai, il faut faire un peu autrement. Mais je pensais, les adultes ont plus de connaissances que les jeunes. Et je me rends compte que c'est de moins en moins vrai. Les adultes aussi sont contents de comprendre quelque chose de la Bible. Ils ont été privés souvent de clés aussi pour accéder à la Bible. Alors nous avons des rencontres pour eux pratiquement chaque semaine.
Bien, merci. Alors vraiment dernière.
Oui, très juste rencontre avec les plus déshérités. C'est un choix que Frère Roger avait fait dans les années 60 déjà, d'envoyer des frères au loin. Donc aujourd'hui, il y a 5 groupes de frères loin de Thésée. Il y a le Brésil qui a été la première fraternité de frères fondée en 66. Ensuite, il y a le Kenya, Nairobi, le Sénégal, la Corée du Sud et le Bangladesh. Le Bangladesh est un pays musulman où les frères sont allés en 75 en disant nous voulons vivre au milieu des musulmans. Ça, les chrétiens n'ont pas tout de suite compris. Il y a à peu près 1% des chrétiens au Bangladesh. Et les chrétiens disaient mais nous sommes si peu nombreux, il faut vivre avec nous. Et les frères disaient mais il nous semble que le défi aujourd'hui c'est de créer la confiance avec les musulmans. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et après un an, les chrétiens ont compris aussi. C'est assez impressionnant ce qui se vit là au milieu de musulmans, ces amitiés très profondes avec des musulmans dans un pays comme le Bangladesh.
Merci encore.